La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 7 octobre 2014, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Anne Albertson, bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Une aide-soignante espagnole atteinte par le virus Ebola dans un hôpital de Madrid.
Les risques d'une épidémie d'Ebola extrêmement faibles aux États-Unis, assure le président Obama. Un journaliste américain évacué du Libéria dans une unité d'isolement d'un hôpital universitaire du Nebraska.
Au Kenya, Uhuru Kenyatta se fait remplacer temporairement par son vice-président pour se présenter devant la Cour pénale internationale.
Au Burkina, échec du dialogue inclusif entre la majorité présidentielle et l'opposition.
Affrontement violent entre combattants kurdes et militants de l'État islamique pour le contrôle de Kobané, une ville syrienne à la frontière avec la Turquie.
Nouvelle victoire pour les partisans du mariage homosexuel hier aux États-Unis après une décision de la Cour suprême. Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Une aide-soignante espagnole qui avait aidé à traiter un patient atteint par le virus Ebola dans un hôpital de Madrid a de son côté contracté la maladie. Elle devient ainsi la première personne connue à avoir été contaminée hors d'Afrique.
Selon les autorités sanitaires espagnoles, elle faisait partie de l'équipe qui avait traité un prêtre espagnol de 69 ans, décédé à l'hôpital le mois dernier, après avoir été évacué par avion de Sierra Leone.
Malgré les dernières nouvelles en provenance d'Espagne et l'hospitalisation du cinquième Américain à contracter le virus, le président Barack Obama a déclaré hier que les risques d'une épidémie d'Ebola aux États-Unis sont extrêmement faibles.
Monsieur Obama a par ailleurs annoncé que son administration travaillait sur un train de mesures supplémentaires pour identifier les passagers aériens qui pourraient être porteurs du virus. Il a aussi promis d'accentuer la pression sur certains grands pays non identifiés pour qu'ils aident beaucoup plus les pays d'Afrique de l'Ouest qui se débattent dans cette pire épidémie d'Ebola de l'histoire.
Entre-temps, arrivé aux États-Unis du journaliste américain Ashoka Mukpo, diagnostiqué au Libéria, il est dans une unité d'isolement du centre médical de l'Université de Nebraska, où un porte-parole a dit qu'on évaluait son état avant de déterminer le traitement dont il a besoin.
La fièvre Ebola a des effets destructeurs pour la santé, mais aussi pour les économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, et peut également nuire aux économies d'autres pays africains. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ces trois pays avaient tourné le dos à leurs problèmes de conflit et allaient tellement bien, a déploré la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, lors du 14e Forum économique sur l'Afrique organisé par l'OCDE à Paris. Et le coût est énorme pour ces trois qui ont des institutions fragiles, a souligné le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. L'épidémie d'Ebola n'affecte pas seulement les systèmes de santé, elle perturbe également l'économie et le développement, a précisé Ayodele Odusola, un responsable du bureau Afrique au PNUD. Selon les experts, le tourisme, l'agriculture, les transports et les mines ont été paralysés par l'épidémie et dans les pays voisins, on observe une forte augmentation des prix. Le commerce informel très répandu en Afrique a également pris un gros coup. En plus, à cause de la peur de l'Ebola, selon le milliardaire soudanais Mo Ibrahim, les gens ne vont plus aller au Kenya ou en Afrique du Sud car il y a de l'Ebola en Afrique alors que Londres ou Lisbonne sont plus près des zones contaminées.
Le ministère ougandais de la Santé a annoncé hier lundi qu'il avait placé sous observation 8 personnes susceptibles d'avoir contracté le virus de Marburg, un virus de la même famille qu'Ebola. Bagasikoura.
Un technicien de radiographie de 30 ans qui travaillait à l'hôpital Mengo de Kampala est décédé le 28 septembre de la fièvre hémorragique à virus de Marburg. Selon le ministère de la Santé, 8 personnes qui ont été en contact avec ce patient ont développé des symptômes de cette fièvre hémorragique. Le virus de Marburg est de la même famille que celui d'Ebola et figure également parmi les agents pathogènes les plus virulents chez l'homme, selon l'OMS. Comme Ebola, le virus de Marburg se transmet par contact avec les fluides corporels. Les personnes contaminées par le virus de Marbourg connaissent très rapidement une forte fièvre suivie de diarrhée, vomissements et hémorragies sévères. Le virus a une période d'incubation de 21 jours. Son taux de létalité varie de 25 à 80% selon les épidémies. D'après l'OMS, il n'existe ni vaccin ni traitement. En octobre 2012, une épidémie de fièvre à virus de Marbourg avait fait une dizaine de morts sur une vingtaine de cas confirmés en Ouganda.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combattants kurdes et les militants de l'État islamique sont engagés dans de violents combats de rue pour le contrôle de la ville syrienne de Kobané à la frontière avec la Turquie. Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, qui est basé en Grande-Bretagne, au moins 27 militants et 19 Kurdes ont été tués dimanche et lundi, dont une kamikaze kurde qui a emporté avec elle plusieurs insurgés.
On pouvait apercevoir de l'autre côté de la frontière en Turquie le drapeau noir de l'État islamique flotter au-dessus d'un bâtiment de Kobané. Mais un responsable kurde de la défense assure que ses forces se défendront jusqu'au bout. Si la ville de Kobané tombe, a-t-il dit, elle deviendra un cimetière pour l'État islamique.
Ces affrontements ont provoqué la fuite de milliers de civils à travers la frontière pour se réfugier en Turquie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est profondément préoccupé par l'offensive de l'État islamique à Kobané. Selon son porte-parole, M. Ban exhorte tous ceux qui en ont les moyens à protéger les civils.
Par ailleurs, le vice-président américain Joe Biden a présenté ses excuses deux fois en deux jours suite à ses commentaires suggérant que les alliés arabes des États-Unis arment et financent les terroristes en Syrie. Henri Francisque.
Joe Biden a appelé dimanche Mohammed bin Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, pour dire qu'il ne voulait pas signifier que les Émirats arabes unis soutenaient les terroristes. La semaine dernière, pendant une allocution à la prestigieuse université Harvard à Boston, M. Biden avait décrit les alliés des États-Unis comme étant le plus grand problème dans la lutte contre le terrorisme. Il avait cité nommément la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. La Turquie a été la première à se plaindre des remarques de M. Biden, qui avait même affirmé que le président turc Recep Tayyip Erdogan lui a assuré que son pays avait tort de laisser des combattants étrangers traverser sa frontière pour aller se battre en Syrie. Le leader turc a démenti, disant qu'il n'a jamais eu une telle discussion avec M. Biden et que son pays n'a jamais autorisé des combattants étrangers à passer par sa frontière pour aller donner un coup de main aux islamistes en Syrie. Et là encore, le vice-président américain a présenté ses excuses.
À Hong Kong, après plus d'une semaine de manifestations qui ont paralysé des parties de la ville, les leaders étudiants ont établi hier avec les responsables gouvernementaux un cadre pour discuter des réformes politiques réclamées par le mouvement pro-démocratie.
Les manifestations ont perdu de leur intensité hier, ce qui a permis aux employés du gouvernement de Hong Kong de retourner au travail. Selon un dirigeant des étudiants, les deux parties ont convenu que le gouvernement sera tenu de mettre en œuvre tout accord intervenu dans leur futur pourparlers. Quant au chef de l'exécutif de Hong Kong, Leung Chun-ying, il assure de la bonne foi de son gouvernement. D'autres discussions préliminaires sont prévues aujourd'hui.
Au Mexique, le président Enrique Peña Nieto souligne qu'il n'y a pas de place pour l'impunité dans le cas des 43 étudiants protestataires portés disparus depuis 10 jours, un cas qui implique des policiers et des membres de gangs. M. Peña Nieto a tenu une conférence de presse hier pour parler de la fosse commune découverte il y a deux jours dans l'état de Guerrero. Son procureur en chef a lié cette découverte macabre au cas des étudiants, mais les enquêteurs attendent les résultats des tests ADN pour confirmation. Selon ce dernier, deux tueurs professionnels d'un gang ont avoué avoir aidé la police locale à tuer 17 des étudiants.
Nouvelle victoire pour les partisans du mariage homosexuel aux États-Unis. La Cour suprême a rendu une décision hier qui ne signifie pas la légalisation au plan national, mais qui élargit considérablement le nombre d'États où les personnes de même sexe peuvent se marier. Morgane Guiriec.
Depuis hier, les homosexuels dans les États de l'Utah, l'Indiana, l'Oklahoma, la Virginie et le Wisconsin peuvent se marier légalement. Conséquence de la décision de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Les neuf sages ont refusé de se saisir d'appels déposés dans ces cinq États où des lois interdisaient les mariages homosexuels et qui avaient été invalidées par des cours d'appel fédérales. Aujourd'hui, les couples de même sexe peuvent se marier dans 24 États, ainsi que la capitale fédérale, Washington. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a redit que le président Obama trouvait que c'était une erreur d'empêcher les couples de même sexe et qui veulent se marier de le faire. La Cour suprême a une nouvelle fois décliné l'occasion de se saisir de la question centrale de ce débat, irrésolue depuis la première législation dans le Massachusetts en 2004. La Constitution américaine garantit-elle aux couples homosexuels le droit de se marier? Une majorité d'Américains est favorable au mariage homosexuel, 56% selon un sondage CBS News New York Times réalisé en septembre.
22 milliards de dollars, c'est ce que Facebook va finalement débourser pour l'acquisition de l'application WhatsApp, 3 de plus que ce qui était initialement prévu en février, Claire Morin-Gibourg.
L'acquisition de l'application WhatsApp, une messagerie mobile et instantanée sur Internet, a été finalisée hier par Facebook pour 22 milliards de dollars. Facebook avait annoncé en février l'achat de WhatsApp pour quelque 19 milliards de dollars. Une plus-value qui ne sera pas un problème pour le réseau social, qui prévoit de payer la plus grande partie de cette transaction avec ses propres actions en hausse de plus de 14% depuis le printemps. Facebook a pu finaliser cette acquisition car la Commission européenne a accordé la dernière autorisation qui lui manquait. Les autorités américaines de la concurrence, la FTC, avaient-elles donné leur feu vert dès avril, tout en mettant en garde contre tout mauvais usage des données personnelles des utilisateurs de WhatsApp.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, la voix de l'Amérique. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a annoncé hier qu'il va répondre à la convocation de la Cour pénale internationale à La Haye pour une séance sur son statut. Il a temporairement transféré le pouvoir à son vice-président William Ruto, qui est lui aussi cité à comparaître devant la CPI. Sur la décision du président kényan, M. Uhuru, notre collègue Idriss Fall a recueilli la réaction de Jean-Marie Fardeau de l'association Human Rights Watch à Paris.
La décision du président Kenyatta de se rendre à La Haye est une bonne décision. C'est une convocation qui n'a pas beaucoup d'enjeux pour lui et qui ne pose pas beaucoup de risques. Et le problème, c'est que le Kenya a pour l'instant très peu coopéré avec la Cour pour fournir des éléments qui sont indispensables à un éventuel procès, c'est-à-dire que des pièces que la CPI a demandées, que le Kenya n'a pas fournies. Et donc nous craignons que finalement, la Cour n'ait pas vraiment les éléments pour poursuivre ceux qui sont suspectés, lui et le vice-président Ruto, d'avoir donné des ordres ou commandité des crimes contre l'humanité.
Mais ça signifie que la Cour n'avait pas assez d'éléments alors pour l'inculper.
La Cour n'en est pas encore à l'inculpation. La Cour en est à étudier les charges qui pèsent contre lui et donc demande sa présence pour cela. Et si la Cour a des éléments et ou si malheureusement la Cour risque d'être obligée d'abandonner les poursuites si le dossier n'est pas suffisamment consistant, puisque malheureusement beaucoup de témoins se sont rétractés et que le Kenya n'a pas fourni les documents qui étaient exigés par la Cour.
C'est la première fois qu'un président en exercice va répondre devant une Cour pénale internationale.
Ça, c'est la bonne nouvelle. En dépit des prises d'opposition tonitruantes de l'Union africaine, le président Kenyatta, qui était pourtant très actif dans ce domaine, lui-même va se rendre à la Cour.
Beaucoup d'Africains disent que cette Cour est un tribunal réservé aux Africains.
L'argument est connu. Malheureusement, il n'est pas vérifié dans les faits, puisque la plupart des procès qui sont engagés par la Cour, des procédures qui sont engagées, sont le fait à la demande des pays africains, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la République démocratique du Congo. Ce sont ces pays qui sont allés chercher la Cour pénale pour faire juger des raisons. responsables de crimes très graves pour en finir avec l'impunité. Il est malheureux que la Cour n'ait pas réussi encore à développer des procédures importantes sur des pays en dehors de l'Afrique, mais ce n'est pas la faute de la Cour, c'est la faute des pays du Conseil de sécurité qui ne laissent pas à la Cour autant de liberté qu'elle voudrait avoir pour pouvoir engager des procédures sur des pays qui sont, on peut dire aujourd'hui, toujours protégés par les pays les plus forts du Conseil de sécurité. Ce qui a pu se passer en Afghanistan, les questions de la Colombie, plusieurs pays comme la Géorgie et tous ces pays sur lesquels la Cour a engagé des procédures préliminaires. Pour l'instant, ça n'avance pas. Non, mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans ou 5 ans, la Cour ne sera pas en mesure de réellement faire des poursuites sur des pays qui ne sont pas africains. Et on verra alors que la justice internationale s'applique à tous un système de justice internationale qui a tant fait défaut au monde depuis 1945.
C'était Jean-Marie Fardeau de l'association Human Rights Watch à Paris. Au Burkina et pour son initiateur, le président Blaise Compaoré, le dialogue inclusif entre la majorité et l'opposition sur les grandes questions qui divisent les Burkinabés n'aura pas duré. Il y a eu en effet blocage au stade des préalables, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Le dialogue politique initié par Blaise Compaoré entre la majorité et l'opposition, dénommé dialogue politique inclusif autour des différentes appréciations en rapport avec la révision de la Constitution, aura duré juste le temps des préalables, à savoir que faire des décisions non consensuelles, suivant les explications de Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition.
Devant le préalable réitéré par le coprésident et chef de la délégation de l'opposition politique sur la question « Que fait-on des points de désaccord ?», la délégation de la majorité n'avait pas de solution à ce questionnement. De ce fait, les deux coprésidents ont été chargés d'aller informer l'initiateur du dialogue politique inclusif, à savoir le président du FASO. Au cours de cet entretien, le président du FASO a demandé aux deux coprésidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées. L'opposition politique n'a pas décliné l'offre de dialogue et de concertation. L'opposition politique a maintes fois exprimé à ses interlocuteurs sa pleine disponibilité à participer à un éventuel dialogue sur la situation nationale. L'opposition politique estime que les principes fondamentaux d'un dialogue inclusif ne sont pas respectés. Par conséquent, en accord avec sa base et fidèle au mot d'ordre de cette base, elle suspend sa participation à ce dialogue. Elle tient à exprimer sa profonde déception quant à la volonté clairement affichée par le président du FASO d'aller au référendum en se basant sur n'importe quel prétexte. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de la modification de l'article 37 de notre Constitution par un passage en force programmé.
Et sur ce passage en force programmé de la modification de l'article 37 de la Constitution, voici l'avis de Mme Saran Sérémé, une des rares femmes chef de parti politique de l'opposition.
Compte tenu du passé, compte tenu des dialogues qui se sont passés au Burkina Faso, nous ne pouvons occulter plusieurs faits. Et donc c'est très facile de dire que nous allons mettre en œuvre les points consensuels et refuser de mettre en œuvre les points non consensuels qui restent, lui, à sa discrétion. En ce moment, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? C'est que nous adoptons des points consensuels et imaginons que l'article 37, et nous le savons très bien, restera un point non consensuel, qu'on nous dise que comme vous ne vous êtes pas entendu, évidemment, je vais consulter le peuple. Donc, tout simplement, nous, qu'est-ce que nous estimons? C'est que quelque part, le jeu est faussé dès le début. C'est pourquoi nous avons posé cela comme préalable. Nous ne sommes même pas encore entrés dans les points de débat. Nous estimons là qu'il y a vice de forme et que le débat est biaisé à l'origine. Donc, en cela, nous ne pouvons pas ne pas nous demander les réelles intentions du président du FASO.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
À Maurice, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale afin que des élections anticipées soient tenues avant la fin de l'année. La décision fait suite à un accord historique entre le parti travailliste du Premier ministre Navin Rangoulam et le mouvement militant mauricien de Paul Béranger, qui a depuis démissionné de ses fonctions de leader de l'opposition. Le pacte prévoit l'élection du président au suffrage universel au lieu d'une simple nomination par le chef du gouvernement. Il s'agit d'une réforme de taille puisqu'elle vise à éloigner le pays du système de Westminster, un système parlementaire basé sur celui qui existe au Royaume-Uni, et à le rapprocher plutôt d'une présidentielle à la française. Jacques Aristide s'est entretenu avec le politologue et historien mauricien Jocelyn Chanlow.
C'est le résultat de très longues tractations entre le principal parti de l'opposition, le mouvement militant mauricien, et le parti au pouvoir, le Parti travailliste, qui a finalement débouché sur un accord électoral, partage de pouvoir, mais aussi un projet de loi qui sera soumis après les élections, si l'Alliance gagne les élections, en faveur d'un changement constitutionnel et un changement du système électoral.
Comme on le dit à Maurice, ça fait bouillir la marmite politique, mais le pays traverse-t-il une crise politique ?
Crise politique, le mot est un peu fort, parce que la vie politique à Maurice tourne autour du jeu des alliances. Parce que nous avons un système de scrutin majoritaire à un tour et le multipartisme. Donc évidemment, les élections, c'est toujours un affrontement de blocs depuis l'indépendance. Mais cette fois-ci, c'est le principal parti de l'opposition qui s'est allié avec le parti au pouvoir. Donc ce qui fait qu'il souhaite obtenir une majorité écrasante des élections. Donc c'est pour ça qu'il est probablement dissous pour qu'il y ait des élections anticipées.
Le projet de loi que comptent introduire les deux principaux blocs politiques pour que le président de la République soit élu au suffrage universel changera-t-il grandement le système de Westminster à la mauricienne ?
Effectivement, nous passons d'un système parlementaire vers un système semi-présidentiel avec un président élu au suffrage universel qui, évidemment, aura des pouvoirs accrus comparés au système actuel. Il y aura un partage de pouvoir et, en même temps, le président va assumer une continuité de l'exécutif et le Premier ministre sera nommé par le président. Il aura la majorité au Parlement, mais le président aura quand même des pouvoirs accrus et il sera le responsable, en outre, de la diplomatie.
L'île Maurice se rapproche-t-elle peut-être davantage des autres systèmes qui existent en Afrique, présidentiels notamment ?
Pas réellement. L'île Maurice a toujours été un pays avec une très forte influence française, malgré la colonisation britannique. Le modèle choisi ressemble quelque peu au système français, avec quelques variantes. La réforme électorale que l'Alliance MMM Travailleuse propose a trois objectifs. D'abord, éliminer la déclaration ethnique des candidats aux élections. Le système a été contesté, l'utilisation des identités ethniques freine l'émergence d'un nationalisme mauricien. Le deuxième objectif, c'est introduire une dose de proportionnelle. Troisième objectif, c'est qu'il y ait une plus forte représentation féminine au Parlement. La nouvelle loi électorale voudrait que chaque parti qui va aux élections ait au moins un tiers des candidats, femmes ou hommes.
Eh bien voilà, c'était Jocelyn Chanlow, professeur à l'Université de Maurice.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nouveau point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Au menu, une série de reportages sur le drame humain que provoque la crise. Faites-nous part de vos témoignages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
À présent, les sports avec Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Cannes 2017, Aléa Yakta Est, ou presque, les jeux sont presque faits.
Oui, la Confédération africaine de football a officialisé ce lundi la liste des pays candidats à l'organisation de la Cannes 2017. Il s'agit de l'Algérie, de l'Égypte, du Gabon, du Ghana, du Kenya, du Soudan et du Zimbabwe.
La Supercoupe d'Italie se jouera cette année loin de la botte italienne.
Le match qui opposera le champion en titre, la Juventus, et le vainqueur de la Coupe, Naples, aura lieu le 22 décembre prochain au Qatar. Mauricio Beretta, le président de la Serie A, a indiqué ce lundi que cet accord porte uniquement sur l'édition 2014. Cette rencontre habituellement jouée l'été s'est déjà tenue à l'étranger, notamment en Libye, aux États-Unis ou en Chine.
Maria Sharapova retrouve, dans le nouveau classement publié lundi, la place de numéro 2 mondial.
La joueuse russe qui a remporté dimanche à Pékin son 4e tournoi de l'année ne s'était plus hissée à ce rang depuis juin 2013. Sharapova, qui est âgée de 27 ans, reste à une marche de la première place, solidement tenue par l'américaine Serena Williams, malgré son forfait à Pékin.
Au Japon, c'est toujours l'inquiétude sur le pilote Jules Bianchi.
Oui, victime d'un grave accident hier lors du Grand Prix de Formule 1 au Japon. Le pilote français est toujours dans un état critique mais stable. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la Fédération internationale de l'automobile, Matteo Bonciani. Le pilote de l'écurie Marussia est toujours à l'hôpital de Yokkaichi.
Et maintenant, la musique de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Ce matin, nous écoutons la belle voix de Smokey Robinson, leader du groupe The Miracles. Il est l'un des principaux artistes du label Motown, notamment grâce au titre Tears of a Clown. On l'écoute dans Baby Baby Don't Cry.
Nothing so blue as a heart in pain. Nothing so sad as a tear in vain.
Smokey Robinson forme le groupe vocal The Miracles en 1954 au lycée avec trois camarades.
Oui, les trois amis s'expriment dans le style doo-wop en vogue à cette époque. Ils sont repérés par le grand Berry Gordy en 1958 qui leur fait enregistrer leur premier titre Got a Job chez End Records. Mes parents, Idrissa, adoraient cette chanson. Ma mère ne faisait que parler de Smokey à la maison, ce qui rendait mon père un peu jaloux, je dois le dire.
Smokey Robinson, Baby, Baby, Don't Cry. Merci Roger.
De rien Idrissa, je salue les amis de Jikoroni Para à Bamako.
Roger Muntu, retrouvez-le dans le RM Show à 20h temps universel.
Salut les amis, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà le monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Et ainsi s'achève cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.